Dernier module de notre application Java EE, nous allons ajouter des images à nos musiciens, ce qui va nous permettre de montrer deux choses essentiellement. D'une part, la façon dont mettre en œuvre le SDK Microsoft pour accéder au stockage de blobs sur le net, et d'autre part, la façon dont on peut utiliser CDI dans une application Java EE pour structurer et organiser les différents éléments de cette application. Nous avons déjà utilisé CDI essentiellement dans deux contextes. Dans le contexte de nos EJB, pour injecter l'Entity Manager JPA dans notre EJB, et d'autre part dans nos services REST et nos pages JSF, nos backing bin JSF, pour injecter nos EJB dans ces objets. Deux aspects de CDI vont nous intéresser ici. D'une part, la définition de ce que l'on appelle des producers CDI, et nous allons voir en détail de quoi il s'agit. Et d'autre part, la façon dont on peut injecter ce que nos producers ont produit précisément à l'intérieur de notre code. Prenons comme exemple le code de création d'un client Blob Storage s'appuyant sur le SDK Microsoft. Nous avons besoin d'exécuter le code suivant qui se trouve rangé dans la méthode Create Azure Client et qui va nous permettre de créer un client Azure au travers duquel nous allons pouvoir écrire et lire des données Azure. Il se trouve que la configuration de ce client a besoin d'un paramètre que l'on obtient dans l'IHM d'administration de Microsoft Azure et qui est une chaîne de caractères assez complexe. On va donc choisir d'utiliser CDI pour injecter cette chaîne de caractères dans notre classe et donc on pose la notation @inject sur notre champ privé string qui s'appelle ConnectionString. Comment CDI va-t-il pouvoir résoudre cette chaîne de caractères et savoir quelle chaîne de caractères il va devoir injecter dans ce champ? Il a besoin en fait d'un producer de chaîne de caractères. Un producer de chaîne de caractères peut être un champ de type chaîne de caractères et annoté avec la notation produces. Étant donné que le mécanisme de production et d'injection se fonde sur le type de données que je suis en train de manipuler, on peut à ce stade se poser une question. Effectivement, j'ai d'un côté un producteur de chaînes de caractères et de l'autre côté un consommateur, mon @inject, de chaînes de caractères. Tout se passe très bien, mais que va-t-il se passer si j'ai en fait plusieurs producteurs de chaînes de caractères qui doivent correspondre à plusieurs consommateurs de chaînes de caractères différents? Le type chaîne de caractères est un type précis en Java, mais probablement beaucoup trop générique pour pouvoir être utilisé comme marqueur, en quelque sorte, CDI. Et en l'occurrence, si j'ai plusieurs producteurs de chaînes de caractères au niveau de mon module CDI, je vais avoir un message d'erreur produit par CDI du fait de l'ambiguïté et du conflit qu'il va y avoir entre ces différents producteurs. CDI nous apporte la solution sous la forme du qualificateur ou du qualifier CDI. On va donc créer une annotation, ici Azure Blob Connection String. Une annotation en Java se crée par une interface un peu particulière qui s'appelle en fait une arrobase interface. Et nous allons annoter cette annotation, la déclaration de cette annotation, avec une annotation CDI qui est l'annotation qualifier. Cela fait de cette annotation Azure Blob Connection String un qualifier CDI particulier. Et ce qualifier, nous allons pouvoir l'ajouter à côté de l'annotation produces qui nous indique le producteur de chaîne de caractères. Tout se passe comme si nous avions typé ce producteur, typé avec cette deuxième annotation de type qualifier que l'on a ajouté. Et bien sûr, si l'on ajoute cette annotation du côté du producteur, on peut également l'ajouter du côté du consommateur, ce consommateur de chaîne de caractères consomme des chaînes de caractères du type qualifié Azure Blob Connection String. Ce mécanisme nous permet donc d'avoir autant de producteurs de chaînes de caractères que l'on veut et autant de consommateurs associés et donc de lever l'intégralité des ambiguïtés que l'on avait dans le cas précédent. Quel peut être l'intérêt de cette approche de récupérer cette chaîne de connexion par injection de dépendance? L'intérêt, c'est en fait de découpler complètement les choses, de découpler le code qui utilise cette chaîne de connexion et qui est complètement générique, et puis le code qui va aller lire cette chaîne de connexion. Dans le cadre de l'application que nous écrivons ici, cette chaîne de connexion est un simple champ dans une classe, mais on pourrait très bien imaginer que cette chaîne est en fait lue dans une base de données, dans un fichier de configuration, etc. Cette classe Azure Cloud Blob Client va elle-même devenir un producteur de Cloud Blob Client par simple annotation de la méthode Create Azure Client. De cette façon-là, on découple la création d'un client Azure avec la classe ou les classes qui vont exploiter ce client Azure. Deuxième temps, à l'intérieur de notre compte, nous allons créer un container dans lequel on va pouvoir enregistrer nos images sous forme de blob. Ce container a besoin d'un client Azure pour fonctionner, que nous allons lui fournir sous forme d'injection de dépendance, encore une fois. Et comme notre container a besoin d'un nom, nous allons également l'injecter sous forme d'une chaîne de caractères qualifiée avec un qualifier particulier, exactement de la même façon que nous avions qualifié notre chaîne de connexion Azure. Cette méthode de création d'un container est une méthode technique. Le code qu'elle contient est un code qui est en fait fourni sur le compte GitHub Azure Java. Il comporte en fait deux parties. Premièrement, la création ou la récupération d'un container existant par son nom. Et d'autre part, la définition d'une politique de sécurité pour ce container qui consiste à dire qu'en fait, ce container et donc son contenu sont publics. Cette méthode de création ou de récupération d'un container existant va elle-même encore une fois devenir un producer CDI et comme il s'agit d'un container public, on va également la qualifier pour dire qu'il s'agit explicitement d'un container public. De sorte que si dans notre application, on a besoin de plusieurs types de containers publics, privés ou avec des permissions particulières, on va pouvoir exposer en fait cette fonctionnalité de façon explicite au niveau de notre qualifier. Dernier temps, l'écriture du processus d'upload d'une image. La méthode d'upload d'une image prend en fait deux paramètres. D'une part, le nom de cette image et d'autre part, le tableau d'octets qui représente effectivement l'image dans le format d'image qui lui est propre, qui peut être JPEG, GIF, PNG, etc. Ce point-là n'est pas en fait réellement important puisque nous enregistrons nos images dans un blob. Une fois que l'on a le nom de notre image et ce tableau d'octets, on commence par créer un blob à proprement parler, qui est en fait un bloc d'octets dans l'espace de stockage de notre container, et on y copie tout simplement le tableau d'octets qui représente cette image. La création de ce blob retourne une URI vers ce blob, qui est également l'URL d'accès de ce blob, puisque ce blob est public sur l'Internet. Voici donc la façon dont on peut créer un blob. Une fois que l'on possède l'URL de ce blob, il n'y a plus qu'à l'intégrer à notre application pour que l'image apparaisse dans cette application. Et on voit donc que le stockage de nos ressources purement statiques et le stockage de nos ressources dynamiques devient complètement séparé dans une application web hébergée sur le cloud. Et ce point n'est pas dépendant du fait que nous avons déployé notre application dans Microsoft Azure. Si l'on avait utilisé d'autres solutions cloud, on aurait utilisé le même type de solution puisque ce genre de solution est rendu nécessaire par la nature même du cloud et par la nature dont l'hébergement dans le cloud fonctionne. Afin d'illustrer par un exemple le stockage de données non structurées dans le cloud Azure, on se propose de rajouter dans notre application la gestion d'images associées aux musiciens. Donc on veut pouvoir uploader une image dans la fiche de notre musicien. Cela va avoir plusieurs impacts sur notre application. Une modification au niveau du modèle, puisque nous allons avoir besoin de champs supplémentaires, un champ nom d'image et un champ URL de cette image. Une modification au niveau de notre interface JSF, puisque l'on veut pouvoir uploader nos images avec nos musiciens et on veut pouvoir également les afficher dans la grille de nos musiciens. Et puis un impact sur notre code, puisque on a besoin d'écrire le code qui va permettre d'uploader cette image vers notre application GlassFish, puis de la copier dans le cloud Azure pour pouvoir l'enregistrer de façon sécurisée et pérenne. Pour remplir cette tâche, nous avons tout d'abord besoin de rajouter en dépendance de notre projet Java EE les API Azure qui permettent d'accéder au cloud. Cela se fait donc dans le Java Build Pass de notre projet. Le fait d'avoir installé le plugin Azure nous a installé également un certain nombre de librairies, l'Access Control Service Filter, le Package for Apache Cupid Client Libraries for JMS et le Microsoft Azure Libraries for Java, qui est la librairie Java dont on a besoin pour ce point. On rajoute donc cette librairie Java en dépendance de notre projet. Elle a été ajoutée automatiquement à notre Deployment Assembly, ce qui fait que, automatiquement, tous les jars nécessaires seront rajoutés dans le répertoire webinf-lib de notre WAR. Comme nous l'avons vu, nous avons besoin de plusieurs points et de plusieurs points techniques pour accéder au stockage de blobs dans le cloud Azure. Le premier point est une classe qui va nous permettre de fournir une chaîne de connexion. Appelons cette classe Azure Connection String et rangeons cette classe dans le package CDI de notre application. Le seul objet de cette classe est donc de fournir une chaîne de connexion qui va pouvoir être utilisée pour créer un client de communication avec les ressources blob de notre compte Azure. On crée donc un champ private string connection string. Pour l'instant, ce champ est vide. Nous allons voir comment construire cette chaîne de connexion à partir des informations de notre compte Azure. Et comme nous l'avons vu, nous allons annoter ce champ avec l'annotation produces de CDI pour indiquer que cette chaîne de connexion peut être utilisée en injection de dépendance. Et comme nous l'avons vu également, CDI s'appuie sur le type des données produites pour pouvoir faire les associations avec les points d'injection. Ici, notre donnée est une chaîne de caractères, ce qui est un type précis, mais peu qualifié dans la mesure où, dans une application réelle, on peut avoir de nombreuses chaînes de caractères produites avec des sémantiques différentes. La façon CDI d'ajouter une sémantique à cette chaîne de caractères et d'annoter ce producteur avec ce que l'on appelle un qualifier. Un qualifier est une annotation particulière qui est elle-même annotée par une annotation CDI qui est précisément l'annotation qualifier. Créons donc un qualifier pour cette chaîne de caractères. Il s'agit d'une annotation que l'on va créer dans le package qualifiers et que l'on va appeler Azure Blob Connection String. Cette annotation ne prend pas d'attribut. Elle a toutefois besoin de deux paramètres particuliers qui s'expriment sous forme d'annotation. Un paramètre retention qui indique à la JVM de retenir cette annotation au runtime. Et une autre annotation target qui indique au compilateur que cette annotation peut être posée en l'occurrence sur un champ. Enfin, la dernière annotation à poser est l'annotation qualifier, une annotation CDI qui va permettre à CDI de reconnaître cette annotation comme étant un qualifier, c'est-à-dire un élément qui rajoute une sémantique à un objet produit. On peut maintenant ajouter cette annotation sur cette chaîne de connexion. Cette chaîne de connexion est maintenant une chaîne de caractères de type Azure Blob Connection String. Deuxième temps, création d'un client Azure Blob qui va nous permettre de nous connecter et de dialoguer avec l'espace de stockage de Blob dans Azure. Créons donc une classe Azure Cloud Blob Client. Cette classe va recevoir en injection de dépendance notre chaîne de caractères inject Azure Blob Connection String. Donc à ce point-là, CDI va bien reconnaître qu'il doit injecter la chaîne de caractères de type Azure Blob Connection String. Et on peut donc maintenant créer une méthode qui va nous retourner un Cloud Blob Client. Create Cloud Blob Client, peu importe le nom de cette méthode, dans laquelle on va simplement copier-coller le code fourni sur GitHub. La création du client se fait en deux temps. Tout d'abord, la création d'un objet de type Cloud Storage Account qui modélise le compte d'enregistrement de données dans le cloud et qui, à partir de cet objet, crée un client de type Cloud Blob Client. Cette méthode, évidemment, est susceptible de jeter des exceptions que l'on peut rajouter directement sur la méthode de production. C'est à partir de ce client que l'on va pouvoir accéder aux différents blocs associés à notre compte. Donc, cette méthode qui permet de créer un client va elle-même devenir un producer CDI d'objets de type Cloud Blob Client. On ajoute donc cette annotation produces sur cette méthode. Et dans la classe suivante qui va nous permettre d'accéder au bloc de notre compte Azure, nous allons injecter simplement ce Cloud Blob Client. L'étape suivante consiste donc à créer une nouvelle classe qui va nous permettre d'accéder au container de notre compte que l'on peut appeler Azure Blob Container. Cette classe a besoin de deux éléments pour fonctionner. D'une part, d'un client de communication avec notre compte Azure de type Cloud Blob Client, Private Cloud Blob Client. Client qui va bien sûr être injecté par CDI. Et puis également d'une autre chaîne de caractères qui est simplement le nom du container dans lequel on va enregistrer nos images. Et de la même façon que nous avons injecté notre chaîne de connexion, on va également injecter cette chaîne de caractères, ce nom de container. Nous allons avoir besoin pour cela d'un deuxième qualifier, puisqu'il s'agit toujours d'une injection de chaîne de caractères, ce qualifier, cette fois-ci, va nous permettre d'indiquer que la chaîne de caractères dont on a besoin est en fait un nom de container. Créons donc un deuxième qualifier. On peut copier-coller ce premier qualifier puisqu'il s'agit quasiment du même. Cette fois-ci, notre qualifier sera Azure Blob Container Name. Et rajouter cette annotation ici, Azure Blob Container Name, pour préciser que la chaîne de caractères dont on a besoin est de type Azure Blob Container Name. Nous allons également avoir besoin d'un producer pour ce qualifier ici. On peut pour cela copier-coller l'Azure Connection String qui se trouve ici et appeler notre classe de production Azure Blob Container Name Provider. Ce provider ne crée pas un Azure Blob Connection String, mais un Azure Blob Container Name. Et on peut renommer cette chaîne de caractères en Container Name de façon à être plus explicite. Fixons tout de suite le nom de ce container, Musician Image Container par exemple. Bien, qu'allons-nous faire maintenant avec ce Cloud Blob Client? Nous allons créer un Cloud Blob Container qui est encore un objet fourni par le SDK Azure avec une méthode create public Cloud Blob Container, puisque ce container sera accessible de l'extérieur et donc nous allons le rendre public. Le code de création de ce container est également fourni sur le compte GitHub de Azure Java. Il fonctionne en plusieurs temps. Tout d'abord, on récupère une référence sur le container dans un objet Cloud Blob Container. On demande la création de ce container s'il n'est pas déjà existant et on va lui attribuer un certain nombre de permissions avec la méthode UploadPermission à laquelle on passe un objet de type BlobContainerPermission. Ici, les permissions sont accès public, donc essentiellement n'importe qui va pouvoir lire le contenu de notre container. Évidemment, ces méthodes jette des exceptions que l'on déclare dans la signature. Encore une fois, comme nous gérons notre application avec CDI, nous allons annoter cette méthode avec la notation produces. Et pour préciser les choses, comme il s'agit d'un container public, nous allons qualifier les choses. On peut imaginer effectivement qu'une application puisse gérer plusieurs containers de blobs avec des permissions différentes. Donc on peut qualifier ces blobs exactement de la même façon que l'on a qualifié nos noms de containers ou notre chaîne de connexion. Créons donc une annotation que l'on va appeler Azure Blob Public Container et rajoutons cette annotation Azure Blob, public container. Ici, les choses ne compilent pas parce que cette annotation que nous avons créée par copier-coller est juste déclarée comme pouvant être posée sur un champ. Or là, nous l'avons posée sur une méthode. Donc, il faut rajouter cette possibilité à ce niveau-là, dire que nous pouvons poser cette annotation sur une méthode, ce qui permet maintenant au code de compiler correctement. L'étape suivante sera donc d'écrire deux méthodes, l'une pour uploader une image vers ce container et l'autre pour pouvoir l'en effacer si jamais l'on efface un musicien.
Dernier point que nous avions laissé en suspens, la chaîne de connexion qui va nous permettre d'accéder à notre compte de stockage dans le blob Azure. La configuration de cette chaîne de connexion dépend évidemment de chaque compte. On peut l'obtenir à partir de notre interface d'administration de notre compte Azure. Il faut pour cela aller dans Stockage, gérer les clés d'accès, cliquer sur le lien En savoir plus qui va nous permettre d'accéder à la documentation et ici sur le lien afin d'obtenir la documentation sur la configuration des chaînes de connexion. Une chaîne de connexion est en fait composée de cette façon-là. Faisons un copier-coller de cet élément. Le protocole par défaut que nous allons utiliser, qui peut être HTTP ou HTTPS, choisissons HTTP. Le nom du compte, qui est en l'occurrence JPOMAR, et la clé du compte que l'on va chercher à cet endroit-là. On peut prendre la clé primaire et la copier ici. De cette façon, notre application est configurée pour pouvoir dialoguer avec notre stockage Azure de type Blob. Nous avons préparé les choses côté API. Modifions à présent notre IHM de façon à incorporer cette fonctionnalité d'upload d'image. Nous allons donc reprendre notre page Create Musicien et après le formulaire de création d'un musicien, rajouter un formulaire d'upload d'image. Si l'on fait abstraction des différents éléments Bootstrap qui vont permettre de faire un peu de mise en forme, on a essentiellement deux éléments dedans. Un premier élément qui est cet élément input file et qui va permettre d'uploader l'image dans un objet part de notre backing bin. Le type d'encodage de notre formulaire doit être multipart form data, qui est le type standard pour les formulaires d'upload. Et puis notre bouton upload qui va déclencher une opération au niveau d'une méthode upload image dans notre backing bin, donc dans notre classe musicien contrôleur. Donc dans cette classe musicien contrôleur, nous avons besoin d'un premier élément supplémentaire qui est cet objet de type part. Part associé à un getter et un setter puisque l'on y accède en tant que property. Et une méthode public void upload image qui va nous permettre de gérer l'upload de notre image. Ici, nous avons un peu de code technique à écrire. Tout d'abord, nous allons créer une méthode pour extraire le nom de l'image qui est en train d'être uploadée des éléments HTTP de notre requête. C'est le rôle de cette méthode getFileName qui prend cet objet part en paramètre, qui analyse l'attribut HTTP ContentDisposition à la recherche de la valeur FileName à l'intérieur. Cette méthode, en fait, prend cet objet part en paramètre et nous retourne le nom de l'image qui a été uploadée en retirant les éventuelles informations de chemin qu'il peut y avoir dans cette image. Une fois que nous avons le nom de cette image dont nous allons avoir besoin pour l'enregistrement dans notre blob Azure, il faut que l'on analyse le tableau d'octets qui compose cette image et que l'on va lire en utilisant de façon classique l'API Java I/O qui nous permet de lire ce genre de données. On commence donc par décoder le nom de l'image, getFileName de part. On récupère ensuite un input stream sur cet objet part, get input stream. Cet input stream, ce sont en fait les octets de l'image que nous sommes en train de lire, et nous allons stocker les octets de cette image dans un tableau d'octets en mémoire avant de l'envoyer sur Azure. Ce tableau d'octets va être de type byte array output stream que nous allons stocker dans une variable appelée BOS. Et comme nous sommes en Java 8, nous allons pouvoir mettre tous ces éléments dans un try with resource de façon à gérer la fermeture de ces flux d'octets automatiquement. La lecture de ces octets est classique. Elle passe par la création d'un buffer de lecture, puis la lecture de ces octets bloc par bloc. Il faut prendre garde à bien suivre le pattern, c'est-à-dire que on est arrivé à la fin du flux lorsque le nombre d'octets effectivement lu est égal à moins 1. Donc tant que n est différent de moins 1, on écrit les octets effectivement lus dans le tableau de sortie. Et on recommence le processus de lecture de cette façon-là. Lorsque l'on sort de cette boucle, on a lu l'intégralité de notre part.getInputStream et l'on va pouvoir maintenant transférer notre tableau d'octets vers le cloud Azure. Commençons par régler les problèmes de compilation qui sont dus à une non-gestion des exceptions. Donc, quand on arrive à ce point, notre image a été lue en mémoire, le nom de l'image se trouve dans ImageName et les octets dans ce tableau de bytes encapsulé dans un byte array output stream. On va avoir besoin de transformer ce nom d'image de façon à éviter les collisions de noms au niveau du stockage des images dans notre compte Azure. Donc il va nous falloir un blob ImageName qui va être la transformation de ce nom d'image par une procédure que nous allons standardiser au niveau de notre application. On va donc se créer un objet ImageNameProvider dans lequel on va créer une méthode getBlobImageName à partir du nom de l'image que nous avons reçu. Cette variable n'existe pas. On va donc la créer au niveau de notre bin musicien contrôleur, ImageNameProvider. Injecter ce bin par injection de dépendance. Cette classe ImageNameProvider, bien sûr, n'existe pas. Nous allons la créer. Dans le package CDI, puisqu'il va s'agir d'un producer CDI. Voilà qui est fait. Et à l'intérieur de cette classe, nous allons créer cette méthode getBlobImage. Eclipse va nous aider en cela de cette façon. Comment va-t-on transformer le nom de cette image en un nom d'image blob ? Il faut que l'on trouve une façon unique de générer des noms d'images pour le stockage dans notre blob de façon à garantir l'unicité de ces noms et à éviter les collisions de noms. Une bonne façon de le faire est de récupérer le nom de l'image, ImageName, et avant l'extension de cette image, .jpeg, .png ou quelque chose comme ça, de rajouter, donc nous allons prendre la chaîne de caractères qui va jusqu'au point censé marquer l'extension du nom de cette image. Et à ce stade, nous allons ajouter derrière un tiret la date courante à la nanoseconde et terminer en ajoutant l'élément de l'image que nous avions retiré, c'est-à-dire le point et son extension. C'est une façon assez simpliste, peut-être manque-t-elle d'un peu de sophistication, de générer des noms d'images uniques et donc d'éviter d'avoir des collisions de noms sur le stockage Azure que nous utilisons. Donc nous avons notre nom d'image qui est prêt pour l'upload. Nous allons à présent avoir besoin d'un objet technique pour uploader notre tableau d'octets à proprement parler. Comment souhaitons-nous interagir avec lui? Nous allons avoir besoin d'une URI pour cette image. Donc cet objet technique, que l'on peut appeler bloc, puisqu'il va nous permettre d'interagir avec les blocs de notre stockage Azure. Créons une méthode uploadImage dans cet objet de type bloc, à laquelle nous allons passer le nom de notre image et le tableau des octets lu à partir de cet objet wrapper que nous avons rempli précédemment. Cet objet bloc n'existe pas. Nous allons donc le créer. Créons-lui un type Azure bloc référence bloc. C'est un objet que nous allons également injecter par CDI. Créons cette classe. Bien sûr, nous la créons également dans le package CDI. Et à l'intérieur de cette classe, nous allons avoir besoin d'une méthode uploadImage qui prend donc une chaîne de caractères avec le nom de l'image, un tableau d'octets avec l'image à proprement parler et qui est censé nous retourner l'URI de cette image. De quoi cette méthode a-t-elle besoin pour fonctionner? Elle a besoin évidemment de la classe technique que nous avons créée précédemment et qui permet d'interagir avec le container Azure dans lequel nous allons stocker nos images. Ce container Azure est de type Cloud Blob Container. Nous allons l'injecter grâce à CDI en précisant que c'est bien du container public que nous avons besoin, Azure Blob Public Container. Et nous allons maintenant pouvoir utiliser cet objet pour uploader l'image qui nous arrive en paramètres. Là encore, le code nous est fourni sur le compte GitHub de Java Azure. Il suffit juste d'ajuster les noms des variables. De cette façon-là. Et de jeter les bonnes exceptions pour que ce code compile correctement. Donc voilà notre code d'upload d'image qui a été écrit. Cette méthode génère un certain nombre d'exceptions que nous allons rajouter en multicatch à notre clause catch existante. À présent, qu'allons-nous faire de ce nom d'image et de cette URI qui est l'URI à laquelle nous allons pouvoir accéder à cette image? Eh bien, nous allons l'ajouter à notre instance de musicien. Musicien, set image name, blob image name, et musicien, set image URI de URI. Demandons à Eclipse encore une fois de créer ces méthodes pour nous. On On a donc deux méthodes, setImageName et setUri. ThisImageName égale blobImageName et thisUri égale uri.toString, étant donné que nous n'allons pas stocker l'uri en tant que tel, mais plutôt la chaîne de caractères qui représente cette uri. Ces champs n'existent pas. Demandons à Eclipse de nous les créer. Nous sommes dans une entité JPA, donc ajoutons un peu d'annotation. Le champ ImageName sera enregistré dans une colonne ImageName et le champ URI dans une colonne URI. Les deux setters ont été créés. Il ne reste plus qu'à créer les getters associés. Là encore, Eclipse va nous aider. Voilà notre classe musicien refactorée pour supporter les deux propriétés supplémentaires, ImageName et URI. Revenons dans notre classe musicien contrôleur, donc notre backing bin, et réfléchissons à nouveau à la façon dont nous avons fait les choses. En fait, à ce stade, rien n'empêche un utilisateur d'uploader une première image associée à un musicien, puis une deuxième, puis une troisième, et de sauvegarder à la fin de cette série le musicien en base de données. La deuxième image va alors venir écraser le nom et l'URI de la première image qui a été uploadée, puis la troisième va faire de même avec la deuxième, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que dans notre stockage de type blob, nous allons avoir une multiplication éventuelle d'images uploadées qui n'ont en fait plus de référence dans une instance de musicien en base de données. Donc avant d'enregistrer notre image de cette façon, il serait préférable de tester si notre instance de musicien ici n'est pas déjà en relation avec cette image et le cas échéant, d'effacer l'image qui a été uploadée au préalable. Donc nous allons rajouter un code ici. Si notre musicien possède déjà une image, donc si ImageName est différent de nul, alors nous allons demander l'effacement de cette image à notre objet qui permet de gérer notre bloc d'image. Cette méthode n'existe pas, donc nous allons la créer et l'implémenter. Le code est extrêmement simple. On récupère une référence sur notre blob à partir de cette image et on demande tout simplement la délétion de ce blob, s'il existe évidemment. Ces méthodes jettent des exceptions que nous allons jeter de façon à ce qu'elles soient gérées au niveau de notre backing bin plutôt qu'au niveau de cet objet utilitaire. Et de la même façon qu'une personne éventuellement mal intentionnée pourrait demander à uploader de nombreuses images et à ne sauvegarder que la dernière, ce qui créerait une fuite au niveau du stockage de nos images, quelqu'un pourrait également uploader une image sans sauvegarder le musicien une fois cette image uploadée. Cela enregistrerait notre image dans le cloud, mais comme le musicien associé n'est pas sauvegardé, cette image ne serait référencée par aucune instance persistante en base de données. Donc on va se protéger contre ce point-là, créer une méthode privée void destroy, attacher au cycle de vie CDI de notre musicien contrôleur qui va être pre-destroy, et cette méthode pre-destroy va tester si le musicien qui est attaché à ce bin a été enregistré en base ou pas, et s'il n'a pas été enregistré en base, dans ce cas, demander l'effacement éventuel de l'image qui lui serait associée. Donc, si notre musicien possède une image et qu'il n'a pas été enregistré en base, donc si sa clé primaire est nulle, alors on demande l'effacement de cette image, bloc, delete image, musicien.get image name. Cette méthode est susceptible de jeter des exceptions qu'on attrape donc avec un try catch. De cette façon, nous sommes protégés d'une façon légère contre des uploads d'images intempestifs qui pourraient être multiples pour une même instance ou contre une instance qui ne serait pas sauvegardée en base et donc qui générerait des images non référencées. Le problème va se poser dans les mêmes termes au moment où nous allons demander l'effacement d'un musicien. Regardons ce qui se passe dans notre JB musicien service. Le fait d'effacer un musicien de la base n'efface pas l'éventuelle image qui lui est associée dans le blob storage. Donc, avant d'effacer notre musicien, on peut également tester si une image lui est associée. Et si c'est le cas, reprendre le même code, c'est-à-dire demander l'effacement de cette image à notre classe utilitaire. De la même façon que dans notre musicien contrôleur, dans notre backing bin, on peut récupérer une instance d'Azure Block référence par injection de dépendance dans notre JB, puisque les EJB sont également gérés par CDI. De cette façon, lorsqu'un musicien est effacé, on efface également l'image qui lui est associée si une image lui a toutefois été associée. On aurait pu également mettre ce code directement dans la classe musicien et la mettre en tant que callback sur le cycle de vie d'un musicien tel qu'il est géré par JPA, par exemple sur l'événement pre-destroy. Si l'on avait fait les choses comme ça, effectivement ce code aurait été exécuté automatiquement à l'effacement de chaque musicien de notre base. Mais en termes de dépendance, cela aurait créé une dépendance entre un objet musicien et un objet purement utilitaire qui n'a rien à voir avec notre modèle objet. Donc la bonne façon de faire, le bon pattern à suivre, est plutôt de gérer ce genre de cas, qui est un cas purement technique, à partir de notre couche de service, plutôt que dans notre modèle objet. Voilà comment on peut, de façon simple et un peu simplifiée, gérer l'upload d'images associées à notre musicien et enregistrer ces images dans un storage de type blob au niveau de notre compte Microsoft Azure. Voyons maintenant comment on peut afficher ces images dans notre liste de musiciens. Les choses se passent évidemment dans notre page listmusiciens.xhtml, nous allons en fait rajouter une colonne dans notre grille. Cette colonne est notre colonne image et elle va afficher cette image, mais à une condition, la condition étant que l'URI de cette image enregistrée dans notre musicien n'est pas nulle. Donc on peut ajouter un attribut particulier de l'élément graphic image qui est l'attribut rendered. Cet attribut doit porter une valeur booléenne. Si ce booléen est vrai, l'image va être effectivement affichée. Et si ce booléen est faux, ce composant graphique n'apparaîtra pas dans la page et donc l'image ne sera pas présente, ce qui est logique puisque on n'a pas d'URI pour cette image, donc ça n'a pas de sens d'essayer de l'afficher. Notre application est prête à être repackagée et à être déployée dans Azure. Il manque toutefois un dernier élément qui est la mise à jour de notre schéma de base de données, puisque nous avons rajouté deux champs à notre objet musicien qui sont URI et ImageName. Alter table, le nom de notre table musician, ajoute une colonne add image name varchar de 80 par exemple. Et l'autre colonne dont on a besoin, qui est la colonne URI, également ajoutée. Une fois que notre schéma est mis à jour côté serveur, c'est-à-dire dans notre base de serveurs de production, on peut déployer à nouveau notre application et la tester. La mise à jour sera faite. Reprenons le packaging de notre application. MVA Java EE, export WarFile. Ce WarFile va être enregistré dans le répertoire build de notre projet. Il existe déjà, donc nous allons écraser la version précédente. Si l'on regarde la taille de ce fichier, on constate que maintenant il fait environ 7 mégas alors qu'il ne faisait que quelques dizaines de cas dans sa version précédente. Examinons le contenu de notre fichier WAR et notamment son répertoire WebInflib. Et effectivement, on constate que l'ensemble des librairies Azure ont été ajoutées au WebInflib pour le support de l'accès au stockage dans le cloud. Donc l'augmentation de cette taille est parfaitement normale et parfaitement explicable. Nous pouvons donc redéployer notre application, reprendre notre fichier WAR et l'uploader à nouveau dans notre installation de GlassFish sur le cloud. Cette nouvelle version de notre application a été à présent déployée. Notre application mise à jour a donc bien été déployée sur l'infrastructure Azure. On constate effectivement que sur la page de création, nous avons maintenant ce nouveau composant JSF qui nous permet d'uploader des images. Allons en chercher une. Cette image est donc en cours d'upload dans notre compte Blob. La voilà chargée. On peut vérifier que dans notre compte de stockage JPOMAR Image, le container Musician Image Container a bien été créé et qu'il contient effectivement l'image que l'on vient d'uploader. Créons à présent le musicien. Il s'agit bien sûr d'Elvis Presley. On peut créer également d'autres musiciens. Louis Armstrong. Uploader son image. Musicien de jazz. Création. On peut également créer des musiciens sans leur image. Ce cas normalement doit être géré dans la liste de musiciens que nous allons regarder. Créons un dernier musicien, Frédéric Chopin, afin d'avoir au moins un musicien de musique classique. Voilà, allons examiner notre liste de musiciens. Nous avons donc bien les musiciens que nous avons rentrés, Elvis Presley, Louis Armstrong, Eric Clapton qui n'a pas d'image associée et Frédéric Chopin. Et la fonctionnalité d'effacement si l'on souhaite effacer un musicien de notre liste. Donc notre application Java EE est maintenant complète. Nous avons un module JPA de mapping objet relationnel, une couche de service EJB, Enterprise Java Bean, un module CDI pour gérer les différents éléments qui nous permettent d'uploader les images sur le cloud Azure, un module d'écriture d'images en tant que données non structurées dans le cloud Azure et un service REST associé qui nous permet de lire les musiciens et les images qui leur sont associées.